Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Inter.
Avec toute la bande. Et que se passe-t-il ce matin?
Eh bien, nous recevons un dandy à la voix douce, au verbe juste et à la classe indépassable. Ça y est, je suis amoureuse. Il signe ce qui devrait être son dernier album, L'Impermanence, c'est Alain Chamfort.
Ah, enfin, il était chic et distingué. Je me sens moins seul dans ce film.
Non mais alors, bienvenue Alain.
Non mais alors.
Ravi de vous accueillir. Ravi de vous accueillir.
Allô, allô.
C'est quand même, le gars, il dit allô, allô quand il fait de la radio.
La merde dans le tuyau.
C'est chic.
Alain Chamfort. En terrasse. Avec son whisky glace pour bien démarrer la journée, c'est bien. 11h04, petit whisky glace discret. Ou encore. Les gens. Et oui, il a su toucher les gens et il sait le faire encore. On va en parler de L'Impermanence, l'excellent nouvel album d'Alain Chamfort. Mais d'abord, Alain, on démarre avec un blind test. Je ne sais pas si vous aimez.
Je suis très mauvais.
Vous qui êtes compositeur, vous ne savez pas reconnaître à une note
très
de
peu.
Musique.
C'est étrange. Hein,
c'est vrai. Ouais, ouais. Ok. Essayons par exemple avec ça.
C'est la fin. Juliette Armanet.
Oui.
Un jour de disco.
Ah, c'est elle qui joue ça.
Le dernier jour des JO de Laura Demand, je vais écouter cette version aussi.
Je préfère Laura.
Et qui chante ça?
Tes parents.
Laura.
Laura.
Vincent Delerme, tes parents.
Je suis prêt à tout. T'as accepté. Figaro, Madame ou Libé.
Donc le lien entre les deux. C'est quoi le blind test alors le thème?
Tu l'as pas?
Non, personne.
Dernier, la fin.
En plus.
Il n'y a que dans votre cerveau que ça existe. Tanguy.
Leïla.
Tanguy.
Non, non,
Véronique Sanson.
Oui,
Véronique Sanson.
Non, j'avais Leïla avant.
Non, si, je crois, ouais.
Après Tanguy.
Ouais. Tanguy, c'est Leïla.
J'attendais qu'il donne sa réponse. C'est pas grave.
Non, c'est pas grave du tout.
Donc le premier titre, le dernier jour du disco, ensuite il y a tes parents et là amoureuse. Vous êtes toujours pas le thème?
Attends, attends. Leïla,
Laura, oui.
Encore et encore, c'est Cabrel.
Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher.
C'est toujours. Vous êtes toujours pas le thème?
Dites-le nous, c'est trop long là.
C'est vrai?
Ouais. Attends, non, non,
là
non.
Tu vas trouver.
Tanguy,
Leïla.
Weekend à Rome, Dao, mais voilà.
Bah, okay,
c'est la chanson française quoi. Ah non.
Alain Chamfort, vous avez trouvé ce que...
C'est tous les gens qui ont fait un duo un jour avec Alain Chamfort.
Pas loin.
Ah, j'ai envie de dire
les artistes qui ont revendiqué Alain Chamfort comme référence.
Je sais pas, je les connais tous, quoi, c'est ça, non?
Vous avez produit,
c'est les amis.
Vous mangez avec.
Surtout, ils sont tous dans votre clip. Tous.
Ah bah oui,
tous,
bien sûr.
Là, ils sont dans votre clip. Juliette Armanet, Vincent Delerme, Véronique Sanson, Francis Cabrel, Étienne Dao, ils sont tous dans le clip.
Bon, on cherche des vivants, on cherche des vivants déjà. C'est...
Qui chante ça?
Tanguy, c'est Jean-Louis Aubert.
Alors attention, pour l'instant, Tanguy est en tête, ensuite arrive Leïla, puis Daniel, tout se joue là-dessus.
Qui chante? Daniel.
Daniel.
Adamo.
Joli.
C'est ma vie.
Non, oui. Bravo.
Ça, c'est un cadeau à Daniel, hein, venir là-dessus.
C'est vrai, un peu de culture.
Ça va, oui.
C'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Victoire de Daniel. Bravo, bravo Daniel, quel talent.
France Inter, la bande originale avec Nagui et Leïla Kaddour.
Alain Chamfort, je tiens à vous préciser que tous ces artistes.
Absolument, vous avez raison.
Sont présents dans votre clip.
J'étais parti ailleurs, je sais pas.
avec cette phrase, ne serait-ce qu'une fois, hélas, ne serait-ce qu'un instant fugace, aurais-je su toucher la grâce. Question que se pose un artiste, et c'est d'ailleurs dans cette situation d'interrogation que l'on voit, dans une situation de création, en tout cas, que l'on voit tous ces artistes.
Ouais.
Pas forcément que des compositeurs, d'ailleurs.
Hein. Et des auteurs.
Ouais.
Mais c'est pas des interprètes purs, c'est toujours des créatifs.
Ils travaillent, en tout cas. Ils travaillent sur leurs œuvres. Cette question, vous vous l'êtes posée pour ce nouvel album, L'Impermanence.
Je l'ai toujours posée. C'est pas...
Oui, mais on se pose la question de savoir si on va toucher. Mais comment toucher ça?
Déjà, quand on faut être déjà personnellement touché par ce qu'on est en train de faire. Quoi. C'est la première chose un peu impalpable, mais qui nous traverse nous et qui nous donne l'impression d'avoir quelque chose à raconter. Enfin, voilà.
Et ça veut dire quoi, toucher?
C'est un peu épidermique. Je sais pas, c'est un sentiment qu'on perçoit comme ça, comme devant une jolie chose. C'est une émotion qui vous prend et vous vous dites, tiens, c'est quand même... elle est là, quoi. J'espère qu'elle va se transmettre aux autres. Quoi.
Le syndrome de Stendhal, c'est-à-dire être ému...
par soi-même, étrangement.
C'est pas Stendhal. J'ai vu ta tête, Leïla, j'ai dit une bêtise.
Non, c'est la cristallisation, c'est ça, Stendhal?
Non, c'est-à-dire que c'est le... Je crois que ça s'appelle le syndrome de Stendhal, mais c'est lorsque, devant une œuvre, on est ému au point de... Un tableau, une pièce, un morceau de musique, au point où des larmes peuvent jaillir sans jamais contrôler cette émotion.
Oui. Ce qui est étrange, c'est que cette émotion que vous pouvez percevoir, vous, elle peut être perçue par d'autres, mais elle peut laisser aussi d'autres indifférents. Donc c'est tout à fait étrange. Quoi.
Et c'est impalpable, c'est pas calculable, on peut pas se dire « je vais faire un tube ». Ça ne se...
Disons que quand on a l'impression d'avoir quelque chose qui nous fait vraiment ressentir une joie ou quelque chose qui vous habite d'un seul coup, éventuellement ça peut en toucher d'autres. Après...
Mais c'est toutes les chansons, ça. Sinon on les met
pas sur
un album.
Oui, donc, c'est ça. Ben moi, j'essaye de faire des albums en attendant que chaque chanson produise ça.
Ouais.
Après, c'est pour ça que je dis que ce serait le dernier, parce que je commence à manquer un peu de motivation.
Ouais, petite précision quand même, parce que vous avez déclaré que c'était le dernier. Beaucoup de com' s'est faite autour de « C'est fini, c'est le dernier album d'Alain Chamfort ».
C'est le support
pareil,
album.
Donc.
Non, du tout. Ben non, j'ai jamais dit que j'arrêterais. Mais par contre, c'est vrai que le message est mal passé. Quoi. Il y a pas mal de journalistes qui ne semblent pas comprendre.
Donc plus d'albums.
Plus d'albums, mais des EP ou je sais pas, des chansons.
Mais des chansons.
Des titres sortis comme ça.
C'est-à-dire que c'est l'objet qui est remis en cause.
Oui, qui me semble un peu décalé, un peu anachronique maintenant par rapport à l'époque dans laquelle on se trouve. Ça fait quand même quelques temps que les gens ont tendance à aller picorer
sur des plateformes,
créer leurs playlists, etc. Donc, après tout, il faut accompagner l'histoire. Quoi. Oui.
L'impermanence, c'est une notion philosophique.
Absolument.
Une fragilité de la vie, rien n'est fait pour durer, rien.
Rien,
tout, heureusement,
est, tout, tout, tout nous échappe, tout est en mouvement, tout est en évolution.
Ah, ça, c'est vrai.
Tout fout le camp.
Je vous laisse, je vais pleurer 5 minutes.
Non mais attendez. Mais c'est un sentiment qui vient de quelle philosophie?
Bouddhiste. Alors évidemment, eux, ils se raccrochent à l'idée de la réincarnation. Donc
ils sont dans le déni. Ouais.
C'est le cycle.
C'est le cycle. Ouais. Voilà. C'est une idée qui peut nous aider au moment où on trouve des difficultés, quand on traverse des épreuves. Ben, ça permet de penser que ça va s'arranger parce que l'impermanence
va
réguler les choses et voilà, rien ne dure. Mais c'est pas éphémère non plus, parce que l'éphémère, ça se termine, quoi. L'éphémère, il y a la finalité. L'impermanence, c'est un renouveau tout le temps.
Rien ne dure, que ce soit le bonheur ou le malheur.
Exactement.
Il y a sur cet album.
Quand ça devient trop dur, je peux m'appuyer sur cette idée qui me rassure. Tout s'arrange à la fin, ça semble simple.
Alors, une ambiance musicale particulière, mais restons sur le texte. Vous avez différents auteurs qui sont venus travailler avec vous sur l'album. Tout s'arrange à la fin. Là, on n'est plus dans l'impermanence.
Là, il faut bien croire à quelque chose. Il y avait envie d'ajouter une note un peu, justement, un peu plus légère dans l'album, qui est quand même des sujets un peu graves.
Sur une musique pop.
J'avais envie aussi de retrouver des influences qui m'ont plu dans les années 60. Tout ça.
Mmh. Ouais, j'ai retrouvé ça.
Ouais, ouais ça existe.
Il y a un côté. Ah bah oui, il faut assumer. C'était.
Ah, j'assume totalement.
C'était vous. Non, mais parce qu'il y a eu évidemment des tubes absolument incroyables. On va en reparler. Et puis il y a cette chanson, La Grâce. Avec donc ce casting incroyable dans le clip. Tous ces artistes qui, presque à votre surprise, ont accepté quand on en a parlé en montagne, ils m'avaient dit bah, ils ont tous dit oui et très rapidement, ce qui est émouvant.
Ouais, c'était vraiment inespéré. Enfin, c'était ce que j'espérais, bien sûr, mais je ne pensais pas qu'ils allaient être aussi rapides à répondre, puis avec autant de générosité.
Souchon, Voulzy, Julien Clerc, je ne les ai pas tous cités tout à l'heure, Cabrel, y compris ceux qui, comme Étienne Dao, sont plutôt loin des caméras, non pas forcément.
Ouais, et Cabrel aussi était assez loin des caméras. Et... Non, mais c'est vrai que c'était extrêmement. Enfin, je pense que le thème les a convaincus. Enfin,
c'est vous surtout. Ouais, c'est vous. Ça. C'est pas tant le thème de la chanson que vous.
Et puis, je pense qu'ils n'ont pas d'animosité à mon égard.
Oh, c'est joli.
Oh,
c'est joli.
En beauté, à tout miser sur la beauté. En beauté.
Mais il n'est pas si noir que ça, cet album.
Bah non, du tout. Non.
Il était émouvant.
Ah voilà, c'est ça, mais c'est ce que j'aime moi.
Ok, moi c'est réussi. Cette impermanence, on va en parler avec
liberté,
Alain Chauvin. On va écouter encore un peu.
On s'est fait avoir en beauté. À dire vrai, j'ai peur qu'à l'arrivée, la bêtise triomphe en beauté. En beauté, mais d'un autre côté, on n'a qu'à s'en foutre en beauté.
Cette notion de saurais-je partir en beauté, hein, la question vous la posez toujours.
Ouais, toujours. Hein.
Ouais, toujours. Comme dans les micro-sillons. En beauté, bah oui, Lisa Del Moitié.
Ah
oui.
Oui. Vous n'auriez pas fait un album comme ça, comme
Non, j'aurais pas fait ça comme ça. Hussein Agui en gestion de carrière, il y a vraiment deux écoles. Hein. Alain Chamfort, vous sortez votre dernier album, c'est l'école de la dignité. Voilà, savoir arrêter un format avant qu'il soit dépassé. Puis à mon école, hein, où mes chroniques sont comme du bon vin finalement. Je vais vous en servir jusqu'au moment où vous êtes vraiment saoulés. Quoi. Moi, je veux être la Taylor Swift de l'humour. Dès que tu allumes la radio, putain, encore elle, c'est pas possible. T'as vivement un tsunami ou un MeToo qu'on entende autre chose que Shake It Off pendant 24 heures. Ma déception quand j'ai compris que la chanson Shake It Off, c'est juste sur l'indifférence aux rumeurs et pas sur un bébé secoué. Shake It Off. Merci Laura. Mais vous. Merci Nagui. Mais vous, Alain, vous choisissez donc la dignité. Bon, c'est un choix. Hein. Bravo, mais par contre, bonne chance pour la promo. Hein. Oh là là, les journalistes annoncent ton dernier album, ils écrivent déjà ta nécrologie. Quoi. Hey, les gens, la fin d'un travail, c'est pas la fin de la vie. Hein. Il y a d'autres raisons de se lever que le taf. Vous savez pourquoi je me lève, moi, tous les matins?
Non.
Le taf.
Pour pisser, déjà.
C'est gentil.
Je vais manger mexicain, mais je suis pas esclave de votre société productiviste, ok? Si je me lève, c'est d'abord pour honorer mes propres besoins.
Ouais.
Et si je me lave aussi, bien sûr. Mais, Alain, vous avez encore plein de projets devant vous, juste plus d'albums après celui-ci. C'est important, hein, de pas faire l'album de trop. Pas comme U2, par exemple. Vous vous souvenez de Songs of Innocence? Non seulement c'était nul comme album, mais en plus, tous les usagers, Apple l'avait reçu sans rien demander. Rappelez-vous, Et non, un album, c'est comme une tub ou de la coriandre. Ça dépend trop des goûts de chacun pour l'imposer sans consentement. En même temps, c'est peut-être justement parce que l'album était nul qu'on nous l'a imposé gratuitement. C'est rarement le top du top que tu reçois gratos. C'est comme les vêtements soldés ou les mecs qui te harcèlent dans la rue. C'est jamais ceux que j'aurais choisi. C'est terrible. Hein. Et si vous ne faites pas une bono avec un album de trop, c'est parce que vous vivez avec votre temps. Hein. Vous avez compris que l'heure est aux œuvres plus courtes, immédiates. Vous n'êtes pas là à rouspéter, gna gna gna, c'était mieux avant, quand les gens achetaient des vinyles, appelaient la secrétaire mon petit et mouraient du scorbut. Non, ce dernier album s'appelle L'impermanence, et donc c'est très bouddhiste comme concept. Vous acceptez que rien ne soit permanent, que tout change, y compris l'industrie musicale, et que la clé, c'est de s'y adapter. Hein. Prends-en de la graine, Michel Sardou. Voilà. Quand tu vois que l'époque change, bah, mieux vaut être Bouddha que boudé.
Hein.
C'est important de bien finir, il faut savoir se retirer à temps.
On attend.
Parle d'art. On entend souvent des artistes qui veulent mourir sur scène et sur papier. papier, c'est beau, mais dans les faits, en concert, à moins de jouer des maracas, le Parkinson, ça gêne un peu la performance quand même. Hein. Ce que je trouve beau, c'est que du coup, vous pouvez choisir comment finit votre discographie. Hein. Moi, ça m'angoisse cette idée que tu sais rarement que c'est la dernière fois c'est la dernière fois. Hein, la dernière fois que t'embrasses l'être aimé, la dernière fois que tu vois ton père, la dernière fois que t'as mis une couche Pampers, même. Je ne savais pas que c'était la dernière fois. Bon, après, cette dernière fois-là, si je vis assez longtemps, j'aurai droit à une seconde chance.
C'est ça.
Mais là, Alain, vous avez pu consciemment choisir les dernières paroles que vous vouliez partager avec votre public, en tout cas sur un album, à savoir, aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment. C'est super beau. Alors que tous ces artistes qui veulent mourir sur scène, là, bah, leur dernier mot, ce sera c'est donc vrai, quand on meurt, on se chie dessus. Bon, bah, c'est beaucoup moins classe, quoi. Vous imaginez terminer là-dessus? Bah, regardez, c'est la fin de ma chronique.
Super. Alain Chamfort, pour accompagner vos musiques, alors je tiens à préciser que sur l'album, vous êtes auteur de toutes, compositeur de toutes les musiques.
Alors ça, c'est justement, ça prend...
Co-auteur.
Je l'ai co-auteur avec Arnold Turboust.
Mais oui, mais j'avais plus de nouvelles d'Arnold Turboust.
Ah, j'adore.
Mais alors, à quel moment vous allez
parce qu'on se connaît depuis longtemps, qu'on se voit de temps en temps, on s'appelle, voilà, et que cette idée d'écrire un truc ensemble un jour... nous a traversé à lui et à moi, même cette envie.
Autre exception, Sébastien Tellier.
En terrasse. Ouais. Aucune whisky glace. Sans même aller s'effondrer.
Et pour tout le reste, en terrasse, des musiques
au fond de nos crânes,
que vous avez composées.
Vanité.
Là aussi, des auteurs sont venus apporter des paroles.
C'est un auteur, c'est Pierre-Dominique Burgo.
Ouais, il y a aussi Jacques Duval.
Ah oui, mais oui, c'est vrai. Il a fait une chanson, tout s'arrange à la fin.
Voilà.
Avec son humour habituel. Mais j'avais envie qu'il soit sur l'album, effectivement, parce que comme c'est le dernier, il avait sa place. Hein.
Et alors, comment on oriente un auteur par rapport à sa musique? On lui dit dans quel état d'esprit on était au moment d'une musique? On lui fait écouter le morceau? Ou c'est à l'inverse, il apporte un texte et on imagine?
Alors, pour La Grâce, par exemple, c'était le sale exemple contraire. C'est Pierre-Dominique m'a fourni le texte que j'ai mis en musique. Sinon, pour la plupart du temps, la musique installe l'humeur d'elle-même. Quoi. Donc, il n'y a pas besoin de leur spécifier ce que j'attends d'eux. Après, on se connaît très très bien. On passe tellement d'heures à discuter de tout et de rien qu'on a beaucoup d'échanges en dehors des moments où on travaille. On travaille pas ensemble d'ailleurs. C'est étrange, quoi.
Chacun travaille de son côté,
ouais,
c'est ça?
Oui, on passe beaucoup de temps ensemble, mais quand on passe du temps, c'est pas pour travailler. C'est pour évoquer...
Pour parler de la vie, parce que c'est ça qui est intéressant aussi avec cet album.
Et nous voilà, là, au cœur de la nuit. Et nous voilà, là, sur fond d'insomnie. Rejoins nos vies.
Et compris dans votre manière de chanter aussi, la voix est plus posée.
Ouais, alors ça, j'y peux rien.
Dans le souffle. Vous y pouvez quelque chose.
Que là, mais c'est vrai que quand je reprends mes premiers enregistrements, je chantais hyper haut, quoi. Et j'utilisais beaucoup la voix, par exemple. Et je faisais beaucoup de choses avec des voix de tête aussi.
Ouais. Mais ça continue un tout petit peu.
Ça, c'est beaucoup plus bas. Ça.
Oui, c'est plus bas.
Ouais.
Mais c'est moins dans le souffle. Ça monte quand même
Oui, mais ça dépend du thème de la chanson.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc on est dans l'interprétation au sens propre.
Ouais, je trouve que c'est important. Oui.
Du terme. Est-ce que en ayant proposé des musiques à un auteur, lorsque l'auteur y couche ses paroles, on change à nouveau la musique, on change la production, on y rajoute des cordes,
oui,
des guitares.
Je pense que les thèmes après. Qui viennent se poser sur les musiques induisent effectivement une manière de les traiter et prolongent les arrangements. Enfin, aujourd'hui, ça s'appelle du son. Hein. C'est étrange parce qu'on appelait à l'époque des orchestrations ou les arrangements sont devenus du son.
Voilà. Et vous êtes plutôt du genre à abandonner, à accepter de laisser une chanson un moment, parce que jusqu'à ce que l'album ne soit pas sorti, on peut continuer à modifier, toucher avant le mix, avant...
Alors, oui, mais je ne travaille pas seul, hein, pardon, j'ai besoin beaucoup, au contraire des autres. Après, il faut choisir les bons compagnons de route. Ouais. Mais depuis le départ, j'avais Julien Delfaux, qui est un excellent ingénieur du son. J'avais Johan Dalgarn, qui est mon pote aussi, avec qui je faisais les programmations, tout ça. On a fait des choix de musiciens...
Clément
Ducol qui est venu mettre des cordes magnifiques, tout ça. Donc tout ça, c'est des.
Non mais la question,
c'est ça
de
me
savoir.
Dit pas si vous avez du. C'est facile pour vous de lâcher un morceau. dire ça y est, maintenant c'est la version Def, on arrête, on touche plus.
Ah oui, bah oui, il faut bien abandonner.
C'est quoi, c'est le délai, c'est le calendrier?
Non, c'est l'impression de toucher quelque chose qui...
Ouais. La grâce.
Enfin, en tout cas, qui nous convient, quoi. Oui.
Prenons les chansons une par une, commençons par l'Apocalypse.
Attendre un bras ouvert, me laisser glisser vers.
Dans l'exercice d'avoir un mot à dire sur chaque morceau, vous diriez quoi sur l'Apocalypse heureuse?
Ah ben là, c'est la finalité, les bras ouverts, accepter la manière la plus... en espérant qu'on parte dans une espèce de magnificence, d'ouverture, une jouissance totale, quoi, emportée par être happé d'une manière volontaire, acceptée... En souhaitant que ça soit vraiment le dernier passage qui soit sublimé.
Mais l'avenir dans mes yeux, l'horizon des possibles, à l'âge incompressible,
la dernière étreinte qui nous amène à l'Apocalypse heureuse, et où il n'y a plus de... Comment dire? C'est l'étreinte finale, donc c'est devenu, c'est presque anthropophage. Enfin, c'est vraiment plus avoir aucune retenue. Quoi.
Sinon, ça va?
Non.
La vanité. Sincèrement, sur cette musique, beaucoup de textes, beaucoup de pensées auraient pu aller aussi. Pourquoi la vanité qui est présentée?
Alors ça,
comme un défaut,
j'ai demandé à... C'était un thème qu'on avait envie d'explorer. Après, on n'est pas à l'écart de ça. On observe. En même temps, on n'est pas juste de se sentir ailleurs.
Non, mais la première des vanités quand on est artiste, c'est de penser que l'on va être écouté, que des gens nous attendent.
Ben voilà, par exemple, penser qu'on a suffisamment de choses à dire pour les dire et les offrir aux autres.
Et durer. Et durer,
ben ça dépend plus de nous, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est touchés tous par nos vanités.
De pompiers pyromanes, tant d'intimité face caméraman, tant d'humilité en permanence qui se pavane. Tout au fond de nos crânes, vanité, vanité, on y en filigrane.
Je l'écoute en boucle depuis des semaines, cet album, et chouette. Franchement, il est tellement bon. Tellement
inadvertance.
Bon. Ce que Pierre Do a bien saisi, c'est la délicatesse, parce que tout ce qui peut être présenté comme un défaut, que ce soit la vanité ou une fin des plus tristes, il y a toujours cette délicatesse-là qui vient, qui est quand même une évidence dans votre vie, dans vos rapports humains, dans votre comportement, dans la manière avec laquelle vous travaillez. Là, celle-là, par inadvertance. Vous pensez à quoi quand vous chantez cette chanson?
À l'observation que Pierre Do a de moi. Et parce que c'est vrai que j'ai un peu traversé la vie avec des envies, avec mais beaucoup de hasard, et beaucoup de hasard heureux.
Et trop de légèreté, à votre avis, c'est-à-dire sans vous rendre compte des moments vécus au moment où vous les viviez? En regardant en arrière, vous vous dites c'est juste dingue tout ce qui s'est passé, mais ça s'est passé très naturellement, sans...
Oui, avec des épreuves aussi, avec des passages où j'ai dû... Et c'était amusant, parce que les principaux combats que j'ai dû mener, c'était plus lié à mon activité artistique, enfin à vouloir imposer contre la foi, la vie des maisons de disques et tout ça, à garder une ligne, quoi.
Jusqu'à être viré des maisons de disques.
Oui, bien sûr, enfin bon...
Ah si?
Oui, non, mais c'est vrai, mais voilà, je pense que ma détermination s'est beaucoup manifestée à l'égard de cette volonté artistique. Quoi.
Vagabonde depuis l'enfance, être venu au monde, sûrement je pense. Par inadvertance,
être venu au monde. monde par inadvertance, c'est...
Ça peut arriver.
On sait, oui. On saura jamais.
Non.
Il y a également Altiplano.
L'homme qui plane dessus de l'altiplano. Heureux celui qui tourne le dos aux promesses d'Eldorado. Heureux l'homme au jour levant.
Ode à la naïveté, justement, au fait de ne pas se soucier du
résultat. Non, et c'est aussi l'idée d'essayer de, d'avoir un esprit critique, de ne pas se laisser complètement embarquer dans des idéologies ou dans des manières un peu trop faciles, de garder, évidemment, d'essayer de voir les choses avec un peu de hauteur, ne pas réagir trop à chaud sur les événements.
Vous serez à Bruxelles, au club de AB, les 3 à 4 juin. 6 juin, ça sera le point éphémère à Paris. 18 juillet, au Francofolie de Spa, en Belgique.
En terrasse, on tourne whisky glace, sans même aller s'effondre.
Après l'été, il y aura le 14 novembre le Splendide à Lille, il y aura le 16 novembre le Rocher de Palmer, ce nom c'est dans Gironde, le 21 novembre Aix-en-Provence, le 22 novembre Stockfish du côté, c'est au Stockfish pardon, c'est à Nice, le 28 novembre à Brest, le 30 novembre au Théâtre Cravé à la Teste de Buch, le 2 décembre au Trianon à Paris, le 6 décembre au Cirque Royal de Bruxelles, ensuite il y aura Rouen et la Maison des Loisirs des Saulnières.
Je suis touché les gens autant que ceux qui m'ont touché.
Et au milieu de tous ces concerts, est-ce que vous allez glisser?
Bien sûr.
Tellement ça nous touche, ça vous ne pouvez pas, ça, c'est l'impermanence.
Voilà.
ou la permanence. Impossible cette chanson. Et cette personne qui croit vraiment en vous, elle va bien en ce moment?
Ouais, elle vit en Australie, elle vit à Sydney. Et, je suis grand-père de deux enfants, de deux petits fils.
Ouais, ouais, parfait. Des chansons qui ont marqué les esprits. Des incontournables. Ah vous oui. Ne pouvez pas vous produire sans chanter Manu Reva, sans chanter Bon.
Non, 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 tout ça c'est très agréable.
Ils ne vous laissent pas sortir de toute façon.
Vous voyez la hauteur de voix là?
Ouais, c'est très joli. C'est joli. Ouais. Vous ne le pouvez plus là?
Non.
vous la réorchestrez
de manière. Vous descendez un peu.
Clarifiez les harmonies.
Et puis il y a des chansons que vous n'avez jamais chantées. Vu le propos, ça peut être particulier, mais c'est vous qui l'avez composé cette musique.
Ouais, ouais, ouais.
À quel moment, là ça sent, c'est un énorme succès qui traverse d'ailleurs les générations. Cette chanson, à quel moment vous vous dites je vais pas la garder pour moi tellement.
Parce qu'elle était
joyeuse,
faite pour mes copines.
C'était Laurence
Heller et Hélène Bérard, qui étaient qui sont toujours d'ailleurs des copines à moi, et à l'époque elles avaient envie de faire un disque. Et c'était une époque où les coups, comme on dit... Enfin,
ouais, juste un disque et pas un album.
Oui, oui, ouais, c'était amusant de tenter un truc comme ça. Et bon, j'ai trouvé ça et puis on l'a produit et ça a marché. Et
ah ben bah, carrément ouais.
Et d'ailleurs, vous êtes dans le clip, Nike.
Malheureusement. Ouais, ça me colle. Ça me colle. Je peux dire que... Merci de balancer. Salaud.
Mais je vois qu'il est très sympa, le clip. J'en ai parlé à la dernière fois, une attachée de presse qui me disait, mais depuis quand tu connais Nagui? Bah, j'ai dit, on se connaît depuis ce temps-là.
Et c'était Gérard Pulicino qui a fait.
C'est Pulicino, il est rigolo comme tout.
Et vous avez produit?
Ouais.
Ah ouais.
Ah ouais.
C'est vrai que vous chantiez plus aigu à l'époque.
Nouvel album d'Alain Chamfort, L'Impermanence, c'est un bijou, c'est une beauté. Vous vouliez terminer en beauté, bah c'est réussi.
En beauté, à tout miser sur la beauté. En beauté, en beauté.
continue de parler de cet album jusqu'à midi et demi, mais d'abord, voici Camille là-bas.
Coucou tout le monde.
Ah Camille.
Ça va et vous?
Ouais. Très bien.
Alors récemment, je prenais un verre avec une pote à qui je disais qu'en fait, non, j'étais un petit peu fatiguée en ce moment. Alors rien de grave, rassurez-vous, mais c'est vrai que je commence à faire des recherches Google assez spécifiques. Sérieusement, tu sais que t'as besoin de vacances quand dans ton historique, t'as à la fois tuto cocaïne microdosing et hibernation proche Châtelet. Et avant même que j'ai pu finir de lui exposer mon problème, ma pote me coupe et me dit « Chérie, n'en dis pas plus, je comprends tellement. Tu sais quoi, tu devrais trop faire comme moi, partir dans le golfe de Thaïlande, faire 15 jours de yoga détox sur un bateau privé. Je te jure, c'est le seul moyen d'être à la fois déconnecté et reconnecté, tu captes ?» Mais bien sûr, mais c'est ça la solution. Du yoga sur un yacht, du yacht gars. Non mais ça y est, j'avais oublié à quel point cette fille était blindée. Elle est blindée et rien à voir avec son taf en plus. Hein. Non, non, c'est juste que c'est l'héritière d'une grande marque de demi-pizza surgelée, Pizza del Moitié. C'est en vente chez Aldi au rayon autre. La margarita est pas mal, mais oubliez la calzone, il y a eu un rappel. Toujours est-il que j'ai poliment décliné sa proposition. En plus, si je voulais vraiment savoir à quoi ressemblait la Thaïlande hors saison, bah, je demanderais à Cominec de me mettre en ami proche sur Insta, en fait. Là, ma pote a dû sentir que je la regardais de manière un peu outrée, donc elle a enchaîné direct. Non, mais là, en fait, j'ai besoin de partir parce que je me suis pas fait de voyage cette année. Enfin, à part Marrakech à Noël, mais bon, c'était que 4 jours. Et oui, New York cet automne, mais bon, c'était pour le boulot. Enfin, pas boulot, mais à un moment quand même, j'ai eu une idée pour ma newsletter et je crois que je l'ai notée. Et puis, il y a eu Mykonos cet été, mais quand t'es obligé de faire le check-out avant 13h, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des vacances? Non, désolé, mais là, j'ai besoin de faire un vrai break. Ce à quoi j'ai répondu, bien sûr, je comprends. Alors dis-moi, comment puis-je t'aider en tant que personne ayant pris ces dernières vacances sous Sarkozy, frère? Moi, je frôle le burn-out. Enfin non, je devrais pas dire ça, je mesure complètement la chance que j'ai, c'est merveilleux. Mais quand même, je suis au bout du rouleau, je vais crever, putain. Non mais c'est super, le travail, tout ça, l'adrénaline. Sa mère, putain, j'en peux plus, non, c'est extraordinaire, c'est sans sas. Mais niquez-vous, bordel, non, c'est top. Donc, j'ai quand même essayé d'expliquer gentiment à ma pote que compte tenu de notre planète qui brûle, dépenser 12 tonnes de CO2 pour être en chien tête en bas, c'est pas super namasté. Non pas que je sois la fille la plus écolo du monde, hein, mais j'essaie de faire des efforts. Par exemple, pour aller voir ma famille à Marseille l'été dernier, j'ai pris le train, alors que l'avion était moins cher. C'est pas grand-chose, mais bon.
C'est fou.
Après, bien sûr, faut pas compter tous les coups d'accélérateur que je provoque quand je me balade en crop top sur la canebière. Tous les 20 mètres. Oh la gadjit, c'est charmant. Viens, je te chale vers les calanques, ma gâtée. Et casse-toi de là avec ta tête de fatiguée. Ah, la conne de toi. Tu vois pas, tu es en train de me niquer mon bilan carbone. Non, mais en fait, je suis hypocrite. Je suis très hypocrite. La vérité, c'est que si je ne saute pas dans le prochain avion pour Bangkok, c'est moins par conscience écologique que par réalité bancaire. Parce qu'en fait, de quoi ai-je vraiment peur? Des rapports du GIEC ou des articles 24 et suivants du Code monétaire et financier? Bah oui, c'est facile de dire que tu refuses de partir à Koh Phangan quand t'es obligé de faire un tri-count pour acheter du tarama. En fait, je crois qu'en ce moment, le seul truc en vacances chez moi, c'est ma bonne foi. Je crois qu'elle est allée se nicher quelque part sur une île. Elle doit être actuellement en position du lotus et il est grand temps que j'aille la rejoindre. Je sais, c'est pas idéal, mais c'est le seul moyen de me sentir à la fois déconnectée et reconnectée. Tu captes?
Yes! Bravo! C'est la bande originale, on se retrouve juste après Christine and the Queens. Rentrer chez moi, c'est sur Inter.
J'ai pas une raison pour tout foutre en l'air. J'ai pas une raison, mais j'étais en colère. Je ne sais plus comment demander qu'on m'aime. Je suis impatient. Tu me manques tant. Et puis tous les matins je me lève et je me demande encore ce qui m'est arrivé là. Et puis tous les matins comme en rêve je me demande encore ce qui m'est arrivé là. Oh, 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 je veux rentrer chez moi. De lumière pouvait s'échapper de dessous la terre. On m'avait rien dit, j'ai dû laisser faire.
C'était Rentrer chez moi de Christine and the Queens dans la bande originale d'Alain Chanfort.
Ah, Rentrer chez moi, quelle bonne idée, je suis venu faire la même chose.
C'est un psy qui va venir nous rejoindre dans quelques instants.
Ah, enfin.
Olivier de la Doucette pour parler de la manière dont on doit s'arrêter. Mais ce que je voulais souligner, c'était les conseils donnés par des camarades dans ce métier.
En beauté, en beauté, à tout miser sur la beauté.
Michel Berger vous aurait dit, dis-nous, est-ce qu'il vous a vraiment dit, un album, c'est deux, trois chansons, deux, trois tubes, le reste c'est que du remplissage.
Ouais, c'était étrange sa façon de concevoir les choses, je me suis dit,
ça correspond à une époque.
Son succès lui a pas donné tort, hein, mais c'est vrai qu'il trouvait que sinon les gens étaient perdus, notamment les radios, tout ça, parce qu'il y a trop de jolies choses, trop de choses réussies, on capte pas ce qui ressort. Donc il disait, vaut mieux faire deux, trois tubes, enfin deux, trois chansons un peu avec plus intenses que les autres. Voilà.
Ça correspond un peu à ce que tu cites souvent l'exemple. On dit en concert, il faut réussir son entrée. Quelque chose de fort au milieu et c'est sorti.
C'était Maurice Chevalier qui avait dit ça, ouais. Johnny.
Par exemple,
soigne ton entrée, soigne ta sortie, au milieu tu te trémousses. Encore une fois, ça correspond à une époque. Et Alain Bachung, vous aurez dit aussi que l'important dans un morceau, enfin l'entrée dans un morceau, c'était la musique et oui, qu'on y restait avec les paroles.
Absolument. C'est pour ça, et moi j'ai toujours été d'accord avec lui, parce que c'est comme ça que j'ai entendu les chansons, même celles de Brassens. Par exemple, mais il était très, très fort, Brassens en mélodiste. Et lui avait cette idée-là en tête, qu'une chanson, en entrée par la qualité l'efficacité, ou peu importe, de la mélodie, et qu'en deuxième coup, on découvrait les paroles. Quoi. Hein.
Très bel album, très bon album, L'Impermanence d'Alain Chanfort. Moi, je préfère dire ce nouvel album. Après, on verra bien ce qui se passera dans.
Pour l'instant, c'est le nouvel album.
C'est le nouvel album, exactement.
Je peux m'appuyer sur cette idée qui me rassure. Nous s'arrange à la fin.
Tout à ma tamla.
Et sans doute ça l'est. Mais j'y crois.
Tout s'arrange à la fin.
Sur rien.
France Inter a choisi dans sa playlist
La Grâce.
Et ouais, la bonne nouvelle du week-end, c'est que vous avez été programmé, je sais pas comment on dit, décidé d'être programmé, validé, tamponné, estampillé pour passer sur Inter. Ouais, on a encore des doutes quand on est artiste de savoir si on va passer à la radio.
Ouais, c'est ça.
Oui, ça dépend tellement pas de nous. On sait pas trop comment ça va être accueilli. Puis il y a des gens qui ont cette responsabilité-là de faire des choix. On souhaite faire partie de ces choix-là.
Ben oui, c'est le cas avec La Grâce.
Autant que ceux qui m'ont touché.
La musique dans la vie d'Alain Chanfort en 57. Vous écoutiez Ray Charles. Camarade. Attends, une bonne camarade. Leïla est une bonne camarade. Elle voit que je suis en panne d'ordinateur et elle m'aide. À Egal Woman, il se passait quoi en 57, Leïla?
C'est votre premier album. Le premier album en 57.
C'était pas un album, c'était des petites.
Oui, mais si, c'est un album, allez.
Allez, d'accord, ok.
Dites que c'est un album à la dame, on passe à autre chose.
Ça nous arrange.
Mais vous avez 8 ans, c'est trop mignon.
Ah oui, c'est mon premier enregistrement en tout cas.
Bah oui, vous enregistrez quoi?
Eh ben, alors je sais plus ce que c'était, une petite œuvre, un petit exercice de piano qui était un concours qui s'appelait les concours Nérini, voilà, qui se passait à la Scola Cantorum, et on sortait avec un diplôme et puis un petit enregistrement.
La galette.
Et c'était quel genre de musique?
Ah, mais c'était des musiques de piano. Ouais. Enfin, c'était des œuvres de concours de piano.
Que vous jouez encore? Que vous avez encore joué?
Non, celles-ci, je les ai un peu oubliées. Par contre, après, plus tard, j'ai appris des œuvres plus complexes, de Chopin, Liszt, peu importe. Ouais. Et maintenant, j'ai le plaisir à essayer de les rejouer.
C'est une gymnastique quotidienne de piano?
Ça devrait être, je ne le fais pas parce que j'ai pas le courage, mais puis j'ai beaucoup perdu et que c'est moins agréable.
Ouais. Et dans ce cursus classique qui semblait se dessiner pour vous, tout d'un coup il y a Elvis Presley.
Non.
C'est ce que vous racontez.
C'est ma sœur.
Ouais, qu'elle écoutait Elvis.
Ah oui, c'est ma sœur. Oui, ouais, d'accord. Et moi, je l'entendais.
Votre sœur, c'est Elvis Presley.
Ça va être hyper scoop.
Ça, si c'est pas repris partout, là.
Ça va être hyper long. Il va falloir m'aider un petit peu, Alain Chanfort. Donc, oui, pardon, vous dites que votre sœur écoutait Elvis Presley et que c'est le rock tout d'un coup qui entre dans votre vie et que la musique classique, du coup, vous passez pas le conservatoire.
Oui, c'est vrai, c'est que j'écoutais la musique de ce que j'entendais à la radio à l'époque. C'était Salut les copains, c'était des émissions qui étaient créé pour les jeunes publics comme moi, comme des teenagers. Et là, j'entendais tout ce qui se passait, la musique américaine, anglo-saxonne, tout ça. Et c'est vrai que c'est la musique qui était dans la vie. Puis je commençais à aller dans les surprise parties, des trucs. Ouais. Voilà, j'ai envie de jouer ça. Moi.
Et en 72. Gilbert. O'Sullivan. All Again Naturally. Puis il y avait également. Ça, c'est vous?
Ouais.
C'est bien de commencer dans Rousseau.
Et puis surtout.
Le soleil qui brille, les oiseaux qui chantent, c'est l'amour en France.
On peut appeler ça le premier succès, l'amour en France?
Ouais, ça a marché. Ouais. C'était le premier, je ne me rappelle plus. Mais il y avait un qui avait précédé qui s'appelait Un signe de vie, un signe d'amour. Et là, c'est venu vraiment conforter comme position. Ouais.
Et vous signez chez Flèche le label de Claude
oui,
François.
C'était déjà là, ces enregistrements-là, c'était chez lui.
Voilà, vous allez sortir 9 45 tours jusqu'en 75 avec ce label. Vous racontez comment Claude François vous a donné un patronyme de scène, finalement.
Oui,
Chamfort, c'est lui.
Mon patronyme réel, c'est Legovic, pour le breton, et je me suis appelé Chamfort du jour au lendemain.
Comment il est tombé sur le mot Chamfort?
En ouvrant le dictionnaire des noms propres, il a tombé, il ne savait même pas qui c'était, moi non plus d'ailleurs à l'époque. Et il trouvait que le nom était plus général, je ne sais pas, on n'avait pas une notion précise de ses origines. Quoi.
Est-ce que c'est vrai que dans les ruisseaux, Michel Drucker fait les chœurs?
Oui, et Claude François aussi, oui.
On va réécouter.
Oui. Ah ouais.
Ils sont loin. Hein.
Ah non, je reconnais Michel. Non.
On l'entend, à un moment il est formidable.
On est en 79 et là vous écoutiez Blondie. Mmh. 79 c'est également l'année de.
Ouais. D'ailleurs, Blondie a influencé ce qu'est Manu Reva, étrangement. Voilà.
C'est vrai?
Ouais.
Attends, bon, on va écouter Blondie.
Oh non, on peut pas se rendre compte, mais.
Bah pourquoi?
Non, c'est l'autre partie. C'est l'autre partie. C'est la suite.
Ah, c'est la suite, j'ai coupé trop tôt.
Voilà.
Ok. Da, 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 da.
Oh yeah.
Non, plus tard encore.
Pour revenir.
Ouais. Ok, bon, laisse tourner pendant qu'on parle de ce qui s'est passé à ce moment-là avec Serge Gainsbourg.
Il y avait Manu Reva, donc, texte de Serge Gainsbourg, qui initialement, c'était pas ce texte-là en fait.
Non, ça s'appelait Adieu California.
Ouais. Ouais,
exactement.
Et ça vous a pas.
Non, je trouvais que c'était pas bien.
Vous l'avez pas senti.
C'est ça?
Oui, oui, oui.
C'est ce passage-là.
Alors. C'était la construction de la chanson. Entre les deux parties, et moi la deuxième partie de Manu Reva, cette partie-là m'a influencé, quoi, je sais
okay,
pas.
Ok, non, mais c'est honnête, c'est honnête de le reconnaître.
Oui, bah oui.
Et qu'est-ce que vous me sentez? Voilà.
Et puis il y avait Bambou aussi. Ça, c'est la même période.
Ouais. un peu plus tard.
Tu vas pouvoir finir, Léla, attends.
Non, non, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que vous sentiez pas dans Adieu California? Ça donnait quoi dans l'air, d'ailleurs?
Ce qui était surtout, c'était ces thématiques autour des États-Unis, de rêves un peu stupides, avec ces références de Marilyn Monroe. Ça a été un peu éculé, tout ça, et j'avais pas envie de
proposer. Et ça a été dur de lui dire...
Non, du tout. Non. Ouais. Non, il était très, très ouvert à tout ça. Hein. Non, à ce moment-là, ça allait, plus tard.
C'est pas l'histoire que j'avais eue, moi.
Sur Manu Reva, il était très cool. Non, c'est plus tard, après, sur l'album qu'on a fait à la suite de ça, où il était basculé dans Gainsbourg, et c'était vraiment quelqu'un de plus difficile à...
Et Manu Reva, il l'a vraiment écrite en quelques minutes sur un coin de piano?
Non, je pense pas. Enfin, il a dû l'écrire vite parce que c'était à la suite d'un dîner avec Riguidel. Jeanne devait être la marraine d'un bateau et ils ont dîné ensemble avec l'équipage de ce bateau et ils ont évoqué Alain Colas, la disparition du Manu Reva, etc. Et ça, Serge, sachant que j'attendais autre chose sur cette musique, et il a capté le mot, il a écrit très rapidement. Oui.
On va continuer évidemment de parler de la musique d'Alain Chamfort et de ses succès, et surtout de ce nouvel album. Avec vous, Olivier Dalzette, merci de venir à ce micro. Oui. On a beaucoup évoqué la Fondation Recherche Alzheimer, notamment avec la famille Souchon qui était venue et votre camarade de jeu,
le professeur
Bruno Dubois, qui était venu à ce micro parler de l'Alzheimer. Là, aujourd'hui, vous êtes psychiatre, auteur de nombreux ouvrages, notamment le nouveau guide du bien vieillir aux éditions Odile Jacob. Comment s'arrêter quand on fait quelque chose, que ce soit un métier, que ce soit une passion? Est-ce qu'il faut savoir s'arrêter ou est-ce qu'il faut aller au bout de ses forces?
Dès lors que c'est une passion, il ne faut pas s'arrêter. Je crois que quand on a la chance d'avoir une passion, il faut surtout continuer. Alors après, c'est une question de rythme. Pour le travail, tout dépend du travail. Parfois, on est un peu obligé de s'arrêter. Dès lors que c'est un travail qui est difficile physiquement ou même sur le plan psychologique. Mais les professions libérales s'arrêtent souvent un peu plus tard que les salariés. Donc, le travail, c'est une autre histoire. Il faut y aller, il faut diminuer, peut-être lever le pied doucement.
Ouais.
Et puis, à un moment, il faut savoir s'arrêter.
Parce que c'est vraiment une petite mort, arrêter de travailler, ou c'est une libération?
Ben, ça dépend de chacun. Ça dépend de la manière dont vous investissez votre travail. Si vous adorez ce que vous faites, c'est très compliqué. Et puis, en plus, si vous surinvestissez votre travail, ce qui peut arriver à chacun, à certains, là, effectivement, l'arrêt peut être dramatique.
Donc ça, c'est le cas lors d'une passion, quand passion et travail se rencontrent?
Exactement. Exactement. Et moi, je suis frappé de rencontrer des gens qui n'anticipent absolument pas la suite. Ils savent qu'un jour, il faudra probablement lever un peu le pied. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Alors, j'ai souvent ce genre de réponse. Ah, ben, j'adore pêcher à la ligne. Mais j'ai pas le temps, donc je ferai ça quand je m'arrêterai de travailler. Ou j'adore lire. Je lirai Proust quand je prendrai ma retraite. Mais ces gens-là, malheureusement, quand on les rencontre quelques mois après, ils vous disent, bah oui, j'ai pêché... un peu, et puis finalement, je me suis rendu compte que ça m'ennuyait beaucoup. Même chose pour les bouquins. C'est-à-dire que si on n'est pas intéressé avant, c'est très compliqué de s'y mettre après.
Ouais, mais commencer à anticiper, c'est déjà un petit peu renoncer. C'est déjà, on commence à arrêter son activité. Peut-être qu'on n'a pas envie d'y songer.
Mais bien entendu, pour beaucoup de gens, le fait d'imaginer la retraite, ils en ont tellement peur qu'ils préfèrent être dans la négation. Le déni de ce qui va se passer. Mais moi, je ne parle pas forcément du travail, je parle de l'après-travail, qui est un moment extraordinaire. On oublie une chose, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme dispose d'un temps qui peut aller de 15 à 25 ans, c'est-à-dire qu'entre 60, 65 ans et 80, 85 ans, où on a... a priori, une santé qui n'est pas mauvaise, si on a un peu de chance et si on se débrouille bien. On a un peu de moyens. Bon, on peut toujours dire qu'on en manque, mais on en a en tout cas plus que les gens qui nous ont précédés, les générations d'avant. Et puis, on a plein d'opportunités. Et on peut faire beaucoup de choses avec sa vie. C'est vraiment une troisième partie de vie qui est incroyable, qui autrefois durait, allez, 5-10 ans maximum, et après on rentrait dans le quatrième âge, alors que maintenant, on a un temps qui est vraiment long, et il faut l'investir avec des choses qui ont du sens.
Il faut le préparer en cherchant même à faire autre chose, à se donner comme une seconde ou une troisième vie.
Mais pourquoi pas, j'en vois. J'en vois qui y arrivent. C'est pas simple, hein. C'est quand même pas très simple de se réinventer.
C'était ça ma question. C'est, est-ce qu'il vaut mieux avoir une autre vie et peut-être prendre des risques avec ceux qui vont vous dire je vais me lancer dans la passion que je n'ai jamais pu réaliser dans ma vie, ou ouvrir un resto, ou avoir un troquet, que sais-je. Enfin bref, avoir une autre occupation, un autre métier. Il y a quand même un risque aussi, c'est de faire un choix qui soit très déceptif, alors que pendant 30, 40 ans, on a vécu un métier avec un savoir-faire.
Mais exactement, moi je pense que c'est un moment où il faut savoir retraiter sa vie, y repenser.
Sans mauvais jeu de mots.
Oui, absolument. Et ne pas hésiter à faire un bilan de compétences à sa manière. Vous avez des structures qui le proposent, mais on peut le faire soi-même. Y réfléchir, on prend son temps, on regarde, on écrit qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je peux faire. Et qu'est-ce que je sais faire ?
C'est ça.
On croise tout ça,
c'est ça,
et on voit ce que ça donne.
Pour un artiste, là on est dans la passion, son travail c'est la passion, il faut savoir aussi s'arrêter avant que les autres ne vous arrêtent. L'album de trop, c'est la question qu'on peut se poser aussi, ou la chanson de trop, c'est sur En Beauté, non, que cette phrase est dite.
Je ne me rappelle plus, je sais plus. Enfin, c'est le sujet à y traiter.
Enfin ouais, c'est la notion de, est-ce que j'ai raison ou pas de faire la pièce de théâtre de trop ou
absolument,
non.
Oui, bah c'est comme ça dans beaucoup de domaines, hein, les hommes politiques, on en sait quelque chose. Je crois que ce qui est intéressant avec Alain Chamfort, c'est qu'il nous dit une chose, c'est qu'on peut être créatif à tout âge. Et les gens s'imaginent que passé un certain âge, on est vieux dans sa tête et que voilà, les jeux sont faits, mais pas du tout. On connaît des génies dans tous les domaines de la créativité qui ont continué jusqu'à pas d'âge. Que ça soit Picasso, Michel-Ange, Verdi, etc. Ben, on peut en citer mais des dizaines. Donc, il faut surtout continuer à être créatif si on a ce talent-là dans tous les domaines. Il faut l'exploiter.
Un clin d'œil à notre Alain Souchon national et qui fête ses 80 ans cette année, qui était en pleine forme sur la scène de l'Olympia pour votre gala de la Fondation Recherche Alzheimer. Je rappelle que vous êtes à l'origine de cette fondation, en plus du nouveau guide Bienveillir aux éditions Odile Jacob. Merci, professeur, d'être venu à ce micro. C'était Olivier de la Doucette. Alain Chamfort est notre invité jusqu'à 12h30. Mais d'abord, voici Alexandre Kominek. Et à l'heure où je vous parle, il est en cellule de dégrisement, Alexandre Kominek. Heureusement, Leïla, vous avez pu en sortir déjà, et surtout trouver un autre invité.
Tout à fait, Nagui. Cette semaine, nous avons appris, grâce à une enquête du journal Le Parisien aujourd'hui en France, qu'une société française continuait, malgré les sanctions internationales visant Moscou, d'équiper la flotte d'avions VIP de Vladimir Poutine. Pour en parler, nous accueillons ce matin un homme qui se présente lui-même comme le concierge des infréquentables. Bonjour.
Bonjour tout le monde. Bonjour Leïla.
Bonjour.
Comment ça va, Nagui ?
Vous vous connaissez ?
Oui, c'est moi qui lui ai fourni ses armes.
Pardon, ses armes ?
Ses chaussures. Vous pensez bien qu'avec ses pompes, il passe pas les portiques à l'aéroport, hein ? Regardez le nombre de flous qu'il y a sur les grolles. Même les fakirs ont peur de ses yens.
Revenons à vous, monsieur. Quel est votre travail exactement ?
Alors, j'ai commencé comme concierge de luxe, hein, et aujourd'hui je ne traite qu'avec les gens qu'on essaye de boycotter, voilà, ou que l'on veut plus fréquenter. Hein. J'ai fait doublure de Gérard Depardieu, Michel Sardou, j'ai écrit pour Puff Daddy.
Ah oui, quelle chanson par exemple ?
J'ai écrit pour Puff Daddy au procureur. À la suite des accusations d'agression, de viol, à la fin j'ai signé Bad Boy for Life.
Ok, et maintenant donc vous travaillez pour Vladimir Poutine.
Yes. clairement, on peut dire que j'ai ses pères, hein, mais ça s'est pas fait comme ça. Hein. Avant d'arriver à Poutine, j'en ai fait du politique. Hein. J'ai dû passer par Manuel Valls, qui voulait absolument que je lui trouve un emploi. Après, moi, je suis concierge, hein, pas magicien.
Et vous bossez avec des artistes aussi.
Oui, à fond. Là, par exemple, je dois trouver des habits à Afida Turner. franchement, vachement plus simple de fournir des avions à Poutine. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Les brocantes avec Kenji Girac. plein d'artistes. Régulièrement, je transmets les mises à jour du code pénal. Et là, j'ai carrément un groupe WhatsApp, hein, parce que vu le nombre de fils de pute qu'il y a dans le game, quand même pratique.
Alors, selon votre expérience, il y a plus de criminels en politique ou alors chez les artistes?
Ça dépend. Ça dépend ce que vous appelez criminel. Je me suis senti personnellement moins sale en vendant du Viveldop à Kim Jong-un qu'en aidant Matt Pokora sur son album de reprise de Claude François. Chacun son crime.
Quand même. Vous n'avez donc aucune limite, en fait. Il y a bien quelqu'un avec qui vous n'auriez pas pu travailler.
Ah bah oui. Ah bah je vous donne les initiales. A, H.
Ah bah évidemment, Adolf Hitler.
Anne Hidalgo! Anne Hidalgo, bah non, Hitler, c'est facile! Hitler, c'est fallait construire des autoroutes, c'est une histoire qui roule! Hidalgo, oh ça non. Bouchonne! D'ailleurs, Nagui, ton hélicoptère électrique arrive la semaine prochaine.
Ah, c'est cool!
Et Leïla, j'ai tes flacons de poppers au calva, je te les file après l'émission. D'ailleurs, branchez-vous sur France 2 ce week-end, il va être sympa le journal de 13h.
Dans la dernière demi-heure, Tanguy Passureau, de quoi vas-tu nous parler?
Je veux parler d'un joli moment et de belles personnes. Je sais, ça me ressemble pas beaucoup, mais c'est une pianiste, une danseuse, une gare parisienne, la vie, quoi.
La deuxième partie avec Leïla Cadeau, vous êtes avec Daniel Bon, avec toute la bande et avec la classe incarnée.
Monsieur Alain Chamfort, bien évidemment.
Je me souvenais plus qu'il avait fait toute l'émission, Chamfort.
Si. Vanité.
Tout au fond de nos crânes. Vanité.
Mais par exemple sur ce titre,
si cet album marche très 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 fort, Alain Chamfort, ouais, vous n'allez pas regretter que ce soit le dernier album?
On verra.
Parce que
je le regretterai peut-être, et puis c'est pas grave, je vais vivre avec ça.
Puis vous pourrez en faire un autre quand même, au fond.
Non, je ferai des EP.
Si vous en faites un nouveau, et vous l'appelez Regret.
Oui, je vais faire 3 EP en même temps.
Ouais. On rappelle que les EP Extended Play, c'est 4 titres, 4-5 titres.
C'est enfin, tellement plus facile, plus agréable à faire.
À l'époque, on appelait ça des mini-albums d'ailleurs.
Voilà. Et puis on peut en faire plusieurs, c'est plus rapide à faire, c'est plus. J'ai envie de faire plein.
Au lieu d'en faire 3, faites un album.
Non mais le problème d'un album c'est quoi? C'est aussi d'être cohérent dans le concept,
ouais,
c'est-à-dire de se dire on doit aller à 10, 11, 12 chansons qui ont un même univers.
C'est comme ça que je les aborde, moi.
Voilà.
Je trouve que chaque chanson doit avoir son...
Contrairement à ce que disait Michel Berger.
Contrairement à Michel Berger, et c'est lui qui a raison certainement, mais je le fais parce que je peux pas faire autrement, et c'est vrai que si on veut que l'album il soit assez conséquent, ça prend du temps, et j'aime le faire, mais c'est lié à plusieurs choses, c'est lié aussi au fait que les gens écoutent la musique autrement. Je me répète un peu bêtement, mais
on vend plus de disques.
Bah de moins en moins. Ouais. Et puis j'ai envie aussi de faire ça de manière vachement plus ludique, c'est-à-dire faire des collaborations avec des gens comme j'ai fait avec Sébastien Tellier, peu importe.
Sur Whisky Glass, ouais.
Oui, où j'avais abordé Flavien Berger, il y a plein de gens que j'aime bien, avec qui j'aimerais bien faire des choses, et c'est plus simple de se lancer dans une petite collaboration de 3-4 titres.
Ouais.
En beauté, en beauté.
L'impermanence.
À tout miser sur la beauté.
Mais en beauté sans blaguer.
En beauté, en beauté.
Mais c'est ouf.
Au pire, on se plante en beauté.
Voici Monsieur Tanguy Passion.
Bien, vous le savez, en ce moment, je parcours la France des cafés-théâtres pour le rodage de mon nouveau spectacle Un monde hostile, qui parle de la violence. Je trouve le climat actuel en France bien trop feel-good. Bon, j'avais envie de plomber les gens. Et donc, je prends le train. Beaucoup. Trop, en fait. Trop prendre le train, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est prendre le train. Alors, je sais que vous dites, oui, Pastureau, ce tout bab sous Xanax va encore critiquer les gosses qui chouinent en voiture douce. Eh ben non, parce que maintenant, j'ai une technique pour les calmer. Je les regarde droit dans les yeux et j'arrache avec les dents la tête d'une peluche d'un des chiens de la patte patrouille. C'est radical. Sur le reste du Paris Mâcon, il y en a plus un qui chouine. On a oublié qu'avant l'éducation positive, la méthode pour élever les enfants, c'était de les terroriser. Le daron arrivait dans la chambre avec en main un martinet et un rictus sur la face qui rappelait les selfies de Francis Holmes. Ensuite, on regardait Shining à 6 ans en disant « Bon non, le personnage principal m'a l'air plutôt équilibré. » Non, dans le train, maintenant, ça va, mais c'est l'ambiance en gare que j'aime pas. Déjà, il y a trop de gens. Même gare de l'Est, vous regardez le tableau des départs, il y a écrit Metz, Mulhouse, vous dites « Je comprends pas l'idée. Hein » Dans les gares, en plus, tout est cher. Il y a plus de sandwicherie à l'ancienne avec le thon crudité à 4 euros, mais des corners. des corners où la baguette doit être interdite parce que tout est au pain aux 4 céréales ou aux 6 céréales ou aux 12. Il y a des pains qui contiennent plus de céréales qu'il y en a dans la nature. Et puis dernière chose qui me fait horreur, horreur en gare, c'est le piano en libre service. Il y a un piano, les gens jouent. Mais quand je dis les gens, il n'y a pas de sélection. Joue qui veut. Et c'est là qu'on voit les limites de la démocratie. Je dis pas que j'aimerais vivre en Corée du Nord, un pays où le dirigeant est aussi mal coiffé, hein, à part quand on est vendeur des débroussailleuses et on peut se projeter, bon, ça fait pas envie. Je dis juste qu'en gare de Pyongyang, je suis pas sûr qu'il y ait un piano. Et s'il y en a un, on est obligé de jouer des airs à la gloire de Kim Jong-un. Sous les sunlight de Jong-un, fais-moi un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut Jong-un. Oh Kimi, si tu savais. Enfin bon, ce genre de choses, quoi. Non, moi, les pianos dans les gares, c'est pas mon truc. Mais hier, j'ai vu une vidéo qui tourne beaucoup sur le net. Enfin, disons que par rapport au deepfake porno de Roland McDan, elle tourne beaucoup. Sur cette jolie vidéo, on voit un pianiste de gare qui joue bien. C'est une espèce rare, hein, au même titre que l'antisioniste judéophile ou le journaliste d'Europe 1 adhérent LFI. Et là arrive une danseuse en tutu qui se met à évoluer dans l'espace. Ça n'arrive jamais. Dans une gare, des gens tout nus qui hurlent. Ça, j'ai déjà vu plusieurs fois. Ce qui montre l'état de la prise en charge psychiatrique dans ce pays. Mmh. Une fois, il y a même un contrôleur qui a dit que le TGV pour Marseille de 14h37 partirait bien à 14h37. Il a été maîtrisé par les voyageurs et interne, mais c'était trop gros. Hein. Cette jeune femme donc danse et dans la gare, tout s'arrête. C'est ça que fait la poésie. C'est une rupture du réel. Une petite foule se masse, hommes, femmes, de tous âges, de couleurs de peau différentes, et l'espace d'un instant, j'ai cru en l'être humain. Je regardais cette vidéo dans le bureau de l'émission, puis Alexandre Cominet qui est arrivé déguisé en pénis. Je lui ai dit c'est pour un sketch. Quoi ? Il a répondu non, pour une soirée. Je lui ai dit mais enfin Nagui n'est pas là. Il a répondu c'est Lila que je viens voir.
Oh,
et là, la poésie s'est arrêtée. Il n'empêche que sur un court laps de temps, dans cette gare, une forme de communion s'est faite. Et je crois que partout on devrait avoir une danseuse classique. Ici, à la bande originale, elle danserait, tandis qu'enfin unis, nous ferions des câlins à Jacques Attali. Parce qu'on parle trop de l'intellect de cet homme, alors qu'il est aussi sans doute une boule de douceur. Ensuite, Alexandre Cominec m'a dit, je l'ai vu cette vidéo, ça se finit mal, car tout se finit mal. Vous savez à quel point ces gens sont névrosés. Hein, je parle des Suisses. Et en effet, sur la vidéo, des agents de sécurité de la SNCF interviennent, la danseuse leur parle, la musique stoppe. En commentaire, les gens sont atterrés. Je lis des « Ah, ça, ils sont plus rapides à venir que quand c'est des racailles ». Des « On peut plus rien faire dans ce pays », hashtag Macron dictature, gna 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 Jean-Michel. Des « Mais nu dans ton profil », parce que maintenant, sous chaque poste, il y a des robots de l'industrie du X, vous savez, avec en photo de profil, une dame qui se lèche tellement haut les lèvres qu'elle arrive à foutre sa langue à 12 cm de profondeur dans ses sinus. Même à l'examen de BTS des arts du cirque, ils demandent pas ça. Je lis tout ça. Le peuple en veut à la SNCF d'avoir cassé l'harmonie du moment. Des premiers brûlons à la gare de Lyon sont rédigés. Et puis BFM interview le pianiste qui dit « Bon non, en fait, les agents nous ont juste dit, très gentiment, qu'il fallait pas qu'on réclame de l'argent, et c'est tout. » Alors certes, c'est une remise en cause du capitalisme, qui est un super système. Hein, le premier album de 50 Cent, bon, il s'appelait « Get Rich or Die Trying », pas « Viens voir ma yurte de Zadis », quoi. Hein, l'argent, c'est formidable. Si tu n'en as pas, tu n'as pas de Kinder Pingui. Mais rien, en fait, là-dedans n'a été violent. Et le truc, c'est qu'on n'en peut tellement plus. L'angoisse, la violence, les menaces de Daesh. Est-ce que ces gens avaient besoin de mettre leur grain de sel ? Notre époque est tellement anxiogène, comme le disent les médias, et donc ta sœur, que quand il y a un break dans ce bordel, un élan de poésie dans la nuit noire, on veut juste en profiter. Profiter de ce temps suspendu. C'est bien d'être suspendu, à part par les pieds lors des soirées de bizutage chez Ram. Ce pianiste, cette danseuse, sont en mesure de nous réconcilier avec le train, avec la vie. J'ai ajouté 1200 dates de rodage. Ouais. Tout ce que je veux, c'est prendre le TGV. Quoi. Et pour le casting de danseuse ici, bah, se présenter à France Inter après l'émission, suivez le monsieur déguisé en pénis, il vous mènera au studio.
Bravo, Tanguy Pastureau.
Vous êtes bien dans la bande originale de votre matinée sur Inter. On se retrouve juste après Aaron Fraser, Payback. C'était Payback d'Aaron Fraser dans la bande originale.
Pff, cette émission n'en finit plus.
50 ans de carrière. Alain Chamfort et la bande originale de nos vies. Forcément, vous avez tous ces titres en tête. Que ce soit les chansons qu'il a faites pour lui ou pour les autres. De la chignon brune. J'ai bossé tout le week-end. Pour en arriver en 2024, nouvel album, La Grâce.
Je suis touché, les gens.
Par inadvertance, Whisky Glass, La Grâce, En Beauté, Tout s'arrange à la fin. Bref, un très bon album, nouvel album d'Alain Chamfort. D'autres événements culturels, Leïla.
On va parler d'un retour sur scène annoncé pour le 24 septembre au Zénith de Paris dans le cadre d'une tournée européenne d'un artiste que vous connaissez tous. 10 ans qu'il ne s'était pas produit sur scène, il célèbre les 25 ans de la sortie de son album Play.
Robbie Williams ?
Non.
Play.
Non, pardon. Moby Play.
Bravo, ouais. C'est Moby qui reprend la scène, une tournée pour laquelle il ne sera pas payé.
Ah tiens,
il décide que tous les bénéfices seront reversés à des associations européennes de lutte en faveur des droits des animaux. Une tournée donc un peu particulière, qui lui tient particulièrement à cœur. Donc passage à Paris le 24 septembre.
C'est-à-dire qu'il s'appelle Moby pour un hommage à Moby Dick.
Absolument. C'est... Voilà, il y a déjà ça d'inscrit dans son identité même d'artiste.
Je crois qu'il est le petit-fils ou arrière-petit-fils en tout cas de Melville. Ouais.
Ah, ouais. Ah. En lisant votre biographie, Alain Chamfort, il y a une anecdote qui m'a étonnée. Ce sont les tournées avec Jacques Dutronc.
Oui, c'est magnifique. Ça a été mon initiation à la vie. Quoi. Ouais. Voilà. Moi, j'avais 17 ans et rentré dans cette bande avec lui comme modèle. Et c'est un super modèle parce que ce type, il était tellement en dehors de tout. Vous connaissez, vous avez vu sa carrière, comment il l'a mené.
Vous étiez musicien au clavier de...
Oui, j'étais pianiste avec lui. Et on a tourné pendant 2 ans et demi, mais on vivait tout le temps ensemble, quoi.
Ça ressemblait à quoi une tournée, alors, avec Jacques Dutronc?
C'était que de la rigolade. Il chantait pour nous, il chantait même pas pour le public. Et il nous entraînait dans tout son délire. On vivait avec des moyens qui étaient au-dessus des nôtres. On allait que dans les hôtels Relais Château, on bouffait les meilleurs restaurants.
Vous n'aviez pas 17 une thune ans, moi, vous n'aviez plus une thune après.
Ah bah non, mais c'est écouté. Hein. Puis on avait accès à chez Castel, chez Régine, enfin on avait des vies de...
Ça c'est la belle vie, mais qu'est-ce qu'on apprend aussi?
Non, mais qu'on apprend
la rigueur, les répétitions, le travail, il est... Parce qu'il a l'air d'un dilettante.
Mais il était tout le temps pour tout. Hein. Il y avait Volson derrière, Jacques Volson, qui était son directeur artistique,
et son
qui nous mettait des coups de fouet.
Vraiment?
Non, enfin bon, il était... il était vachement exigeant, il était dans la cabine, et c'était un personnage complètement dingue aussi, très caractériel, qui a un genre de funeste. Il mettait son masque à oxygène entre deux insultes. Et
on parle de Dutronc et d'Alain Chamfort accompagnant Jacques Dutronc. C'est Alain Chamfort qui joue ces 3 notes. Le fameux encore.
Ouais, c'est ça.
Quel artiste.
Vous vous rendez compte, hein.
Non, mais c'est un passage,
tout le monde a entendu.
Un passage,
tout le monde a entendu.
Mythique.
Bah, c'était un gimmick de Count Basie, ça.
Minimisez pas, c'est vous.
Non, mais je le reproduisais, c'est aucun talent à faire ça.
On parle à présent d'artistes qui font trembler la planète, dont les concerts déclenchent des tremblements de terre. Je vous avais déjà parlé de Taylor Swift. En tête du classement, parce qu'il y a vraiment un classement. Donc Taylor Swift, son maximum, c'est 2,3 sur l'échelle de Richter. Voilà. Suit un rappeur, Travis Scott.
Ensuite, un chanteur de country qu'on connaît pas, mais qui fait aussi bouger du monde. Et ensuite, en troisième position, un artiste.
Fait bouger du monde, c'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire que dans les concerts, le public sautant, voilà, il y a une activité, ça déclenche une activité sismique.
Comme s'il y avait un tremblement de terre.
Taylor Swift, c'est une expression. Taylor Swift, c'est l'équivalent de 2,3 sur l'échelle de Richter.
Si elle déclenche une marelle géante, on va s'écraser sur l'aile.
Tout le monde. Et bien, il y a un autre artiste, AC/DC, oui, c'est en dernière position, mais entre le chanteur de country et il y a un autre artiste que vous connaissez tous.
Louis Doyon ?
Non, il n'est pas français. Non, il n'est pas français. Et moi, je te réponds, c'est bien. C'est un Américain, c'est un gros Américain.
C'est
Springsteen, absolument.
C'est le boss.
C'est Bruce Springsteen qui arrive en quatrième position. Et sachez que Metallica ne fait pas du tout bouger la Terre. Voilà, étonnamment. En tout cas, c'est une information qui est donnée.
En fait, il y a trop de changements dans leurs morceaux et on n'a pas le temps de sauter.
On saute à la tête, peut-être. On bouge comme ça, aucune idée. En tout cas, les chansons dites métal ne sont pas celles qui génèrent le plus d'activités sismiques. Donc la vie sismologique n'est pas en danger avec le métal. En revanche, c'est en danger avec Taylor Swift. Voilà, prenez-le comme vous voulez. Quelle est la chanson dans votre répertoire qui fait le plus danser à chaque fois en concert?
Oh, alors ça, on est loin du compte. Hein, là, je veux dire, non, mais c'est certainement C'est Bonheur Eva. Oui, parce que les gens, ils sont heureux. Puis c'est une chanson sur laquelle ils ont dansé déjà. Donc ça ramène... Cette réaction.
Vous observez ça dans la foule, bouge.
En plus, dans mon répertoire, ça fait partie des chansons qui bougent. Il n'y a pas tant que ça. Donc.
Des chansons joyeuses aussi, finalement,
malgré le thème. Oui, bien sûr.
Malgré le texte.
Il y a le rythme.
Entre elles.
Voilà,
pardon, mais sur la tournée. Quand ça devient
trop dur. Bah, c'est pas fait encore, on n'a pas.
Non, mais on a envie de danser là-dessus.
Ah oui, j'espère.
Moi, je danserai sur En Beauté.
À tout miser sur la beauté.
T'as envie de bouger.
En beauté.
Si vous voulez enchaîner. On doit pas être loin du BPM. Hein. On doit pas être loin du BPM.
Vous avez passé Clara Bonalune? J'adore.
Je l'ai pas sous la main. Non. Par contre, il y a
Baby Lou.
J'ai pas tout.
Bravo quand même, Nagui, Monsieur Taratata.
J'ai tout l'album.
Un ennemi dans la glace, vous avez.
Voilà. Les gens autant que ceux qui m'ont touché.
Tu as lancé un défi à Alicia. Voici Clara.
Votre réalisatrice.
Clara veut la lune.
Elle arrive de loin. Hein.
Elle, est là, elle est loin. Elle arrive de la
lune. Un ami qui a prénommé sa fille Clara. En hommage à cette chanson. Ouais, vraiment. Toi aussi. C'est vrai?
Ouais, mon oncle.
Clara Luciani, tu veux dire?
Oui, Clara Luciani m'a dit qu'elle avait des... ses parents l'avaient baptisée.
Toutes les filles de cette chanson.
J'ai eu Clara Morgan au téléphone.
Non. Elle a eu.
Alors...
Okay, bon,
excusez-vous tous les deux maintenant. Okay. Maintenant.
Ah, pardon, monsieur.
Pardon.
Okay. Ouais.
On arrête. Il n'empêche que.
Non.
Il y a 10 ans, cette blague, elle serait passée nickel.
Ouais. Mais là, c'est pour vous. Hein. Faites comme vous voulez. Menez-la à bien.
Voyez-vous.
À bien. Si vous voulez pas être là en septembre, faites comme vous voulez.
Dis donc.
Je serai là.
Seul.
Voilà. Tranquille. Hein, les filles.
Il y a encore 3 mois, tu peux tomber.
Il y aura Laura.
Première invitée, Clara.
Clara. Voilà. Ah, ils ont fait ça.
Sur l'album. L'album s'appelle L'impermanence.
L'impermanence. En permanence. C'est une violence. En permanence. L'impermanence.
C'est une violence, la permanence, c'est aussi dur, donc de...
C'est une violence et c'est aussi une chance.
Voilà. Oui, mais en réalité, cette obligation de résultat, cette obligation...
Ah, il n'y a aucune obligation, je ne sais pas.
Dans la vie, quand on est artiste?
On exprime au moins la chance de pouvoir exprimer ce qu'on a envie, comment on réagit à ce qu'on reçoit... Comment on s'en nourrit, c'est une matière qui nous permet d'exprimer c'est quand même formidable. Après, le reste, si on peut traverser les années comme j'ai pu faire, sans avoir besoin de chercher notre activité, pour pouvoir faire vivre les gens qui étaient autour de moi, bah, c'est formidable.
Plus de 50 ans de carrière, c'est juste incroyable. Vous, à aucun moment, vous auriez pu y croire, personne ne peut y croire au début de sa carrière, de dire
bah, bien sûr que non,
50
bien sûr.
Ans.
Moi, j'y crois pas, d'ailleurs.
Une vie incroyable, avec des regrets d'être passé, je sais pas, à côté d'une collaboration, de pas avoir fait plus de bandes originales de films, ou de plus de titres pour d'autres, je sais pas, bah, qu'est-ce qui vous a manqué, puisque tous les succès était au rendez-vous. Encore une fois, les musiques ont marqué nos vies, mais vous auriez aimé faire quoi de plus ?
Peut-être, effectivement, des musiques de films. On ne m'a pas trop sollicité par rapport à ça. J'ai fait une musique pour Moki, à l'époque, et c'était sur le film À mort l'arbitre. Et puis bon, comme c'était des conditions un peu particulières, vu le personnage, on n'a pas pu travailler dans de bonnes conditions. Alors je sais pas si ça a été considéré comme un truc raté, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas eu de relance après.
Voilà, encore une histoire qui peut durer, celle de
oui, par exemple,
début.
Oui.
Nous, on a des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument, désolé pour les fans d'Alain Chamfort, qui ont bien compris la philosophie de leur idole. Faire un album avec 2-3 tubes et le reste des trucs pas top. Alors Nagui me disait que sur le dernier album, les morceaux 6, 4, 7, 8, 9, 3, 1, 10 et 9 étaient effectivement clairement en dessous de la 11e. C'est de l'arnaque, mais on gagne du temps. Désolé pour Elvis qui nous écoute, oui. Et qui est tout perturbé de savoir depuis aujourd'hui qu'il est la sœur d'Alain Chamfort. Oui, Elvis, c'est surprenant, c'est vrai, mais si un jour vous revenez d'Hawaï, passez voir Alain, on sait jamais, un petit duo, ce serait pas mal. Désolé enfin pour Bono de U2 qui m'a appelé à pause pour me dire qu'il avait été tout choqué d'apprendre que Lisa Delmoitié trouvait qu'il faisait des albums de merde. Pas le prendre mal, monsieur No. Elle a dit aussi que Taratata était à chier et que Proust ne savait pas écrire.
Et que Alain s'est composé. Merci Alain Chamfort.
Merci à vous.
Mille fois d'avoir la gentillesse, d'avoir cette grâce qui nous touche tant, qui nous porte et qui nous envoûte sur l'impermanence du nouvel album. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Merci.
Merci Nagui.
Merci Daniel. Merci la bande.
On se retrouve demain, même endroit, même heure, avec nos plus beaux espoirs et désespoirs olympiques. Emmanuel Berco et Benjamin Voisin pour le film L'Esprit Coubertin.
C'est une belle journée sur Internet, ce sera le mot de la fin.